Le journal Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. De la fourche à la fourchette, tout remettre à plat. Guerre des prix, malbouffe, la grande ambition des états généraux de l'alimentation. Ils sont lancés aujourd'hui. Vite, rétablir la confiance au lendemain d'une crise unique sous la 5e, le chef de l'État auprès des militaires dès ce matin sur la base aérienne d'Istres. Économie, il n'y a pas que la défense. Les droits des femmes pourraient bien souffrir, amputés peut-être d'un quart, selon un projet de décret que nous nous sommes procurés. Et les transports, à 8h20, vous recevez Pierre, la ministre qui est en charge des transports.
Elisabeth Borne, ministre chargée des transports, avec elle, on fera le point sur la situation dans le transport aérien, le transport ferroviaire et aussi la situation sur les routes et le projet d'une éventuelle taxe poids lourd. Vos questions pour Elisabeth Borne dans Interactive 01 45 24 7000, ce sera à partir de 9h20.
De la pub dans le 20h de TF1, le CSA dit oui, mais promet, il n'y aura pas de tunnel. Chypre, dans l'île déchirée depuis 43 ans, un village fait de la résistance. Reportage, un juge de paix dans le Tour de France aujourd'hui, l'Isoard, et à Avignon, Sabou Bretman qui met en scène la folie, une bulle de poésie.
France Inter.
Le destin des nations dépend de la façon dont elles se nourrissent, écrivait au XVIIIe siècle le grand Brillat Savarin, gastronome et philosophe. On dit aussi plus prosaïquement être bien dans son assiette. Les états généraux de l'alimentation lancés aujourd'hui en grande pompe, avec le Premier ministre ce matin, le Président de la République cet après-midi, ont cette ambition que toute la chaîne de l'alimentation se mette à table, du producteur au consommateur et jusqu'aux professionnels de santé. Premier défi, enterrer l'âge de guerre entre producteurs et distributeurs, mieux répartir la valeur, s'inspirer d'exemples comme celui-ci dans les Côtes d'Armor, où une association réimplante le blé noir sur les bords de la Rance. C'est un reportage de Clara Le Coq-Réal.
Le paysage a changé en quelques mois dans le pays de Rance, sous les yeux de Philippe, céréalier.
Alors là, on est en pleine floraison. Le sarrasin, c'est une plante qui monte à peu près à 1 mètre de haut, avec une fleur blanche au bout. C'est une plante qu'on avait un peu oubliée, mais on n'en voyait pas.
Philippe était l'un des premiers participants au projet. Un an plus tard, ils sont 22 agriculteurs, tous convaincus qu'il faut se passer des grands groupes et de la finance pour retrouver, disent-ils, l'envie et la fierté de travailler.
Quand on sème un blé, un maïs, on ne sait pas quel prix on va toucher parce que c'est soumis aux marchés mondiaux que nous, on ne maîtrise pas. Maintenant, avec le sarrasin, le prix il est fixé dès le départ avec tous les acteurs qui sont autour de la table.
C'est qu'il faut un cahier des charges agriculteurs.
Jean-Julien Genest est le meunier du groupe, ravi de pouvoir transformer autre chose que du blé étranger.
Ça me fend le cœur un petit peu de voir un camion polonais ou ukrainien arriver dans ma cour. Je préfère avoir des camions qui viennent avec du blé noir français. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à être compétitif en France. Les écarts se minimisent.
Et c'est justement pour ça que le fabricant de galettes Bertel, troisième et dernier maillon de la chaîne, a choisi ce circuit court. Il n'y a donc plus d'intermédiaires et plus de spéculation, explique Patrice Valentin, l'un des porteurs du projet.
En fait, c'est une conception de l'économie complètement différente dans la tête. On va piquer des parts de marché à l'économie financière.
L'an dernier, pour le lancement du projet, les agriculteurs avaient semé 35 hectares de blé noir. Il y en a 120 cette année.
Clara Le Coq-Réal, alors les états généraux de l'alimentation, au-delà de la grand-messe du jour, il y aura deux phases. Les prix dans un premier temps, la qualité dans un deuxième temps, avec des ateliers très concrets de fin août à novembre. Dès aujourd'hui, tout citoyen peut donner ses idées sur la plateforme egalimentation.gouv.fr et puis retrouver aussi sur France Inter le dossier avec plein de sujets, comme par exemple les injonctions alimentaires, quel impact sur l'image du corps, notamment pour les femmes, ou encore l'essor des jardins partagés.
8h04, le président de la République auprès des militaires ce matin au lendemain d'une crise ouverte avec l'armée.
Comme on n'en a jamais vu dans la 5e République, une première, la démission du chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, en désaccord profond, on le sait, sur les coupes budgétaires à la défense. Très vite, le président de la République n'a eu de cesse de faire retomber la fièvre, d'abord nommer un nouveau chef d'état-major, le général François Lecointre, et multiplier les déclarations apaisantes toute la journée hier, avant d'aller donc ce matin sur la base aérienne d'Istres. Julie-Marie Lecointre.
Cette visite était prévue depuis longtemps, officiellement. Pas d'opération déminage donc. Des erreurs, j'en ferai peut-être si je suis élu, disait Emmanuel Macron pendant la campagne. Mais sur ce dossier-là, pas de mea culpa. On dit la crise historique. La garde rapprochée du président n'en démord pas. Ce qui est historique, c'est le manque de loyauté de ce général. Mais avec l'institution ou la base, en revanche, il n'y a aucun conflit. Et Emmanuel Macron fera de nouveau passer le message tout à l'heure, comme il l'a fait rapidement hier, en marge du Tour de France.
Je suis derrière nos soldats, je veux leur dire, derrière les troupes, leurs familles, et l'État est pleinement engagé.
La crise risque-t-elle d'effriter un capital sympathie en légère baisse ce mois-ci ? Hier soir, Emmanuel Macron était à Arles pour les rencontres de la photographie, et les bains de foule qu'il s'est offerts ne sont pas vraiment de nature à le faire douter de lui-même.
Vous êtes formidable, monsieur le président.
Monsieur, continuez, s'il vous plaît.
Je ferai mon maximum.
Aujourd'hui à Istres, Emmanuel Macron entend marquer comme avant au Mali ou à Brest son intérêt pour la mécanique militaire. Pour ce qui est du sujet qui fâche, le budget, l'Élysée plaide qu'il progressera tout au long du quinquennat dans des proportions inédites depuis des années.
Julie-Marie Lecomte, cette crise a mis en avant les coupes budgétaires pour la défense, mais elle a occulté peut-être d'autres économies dans des ministères peut-être un peu moins sensibles, quoique, car pour les droits des femmes dont le candidat Macron avait fait une priorité, eh bien ce n'est pas une coupe que le ministère pourrait subir, c'est une tranchée. Le document que vous êtes procuré, Cyril Graziani, ne laisse pas d'inquiéter.
C'est un projet de décret qui émane de la Direction Générale des Finances Publiques et qui recense ministère par ministère les annulations de crédits, comprenez les baisses de budget. Concernant la ligne égalité entre les femmes et les hommes, 7,5 millions d'euros de moins sont prévus pour 2017. 7,5 millions, c'est une coupe de plus de 25% du budget du secrétariat d'État. Ce chiffre confirme une information du JDD du week-end dernier, démentie alors par Marlène Schiappa. Ce chiffre n'a aucun fondement, avait rétorqué la secrétaire d'État, convenant néanmoins d'économies nécessaires réalisées en priorité sur les frais de fonctionnement du ministère. Depuis, plusieurs associations féministes s'inquiètent de ces restrictions budgétaires. Mardi, une réunion d'arbitrage budgétaire a eu lieu sans que rien ne filtre. Marlène Schiappa a-t-elle obtenu gain de cause et réussi à sauvegarder son budget ? Premier élément de réponse ce matin, puisque la secrétaire d'État sera entendue par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée, qui à coup sûr ne manquera pas de lui demander qui ment dans cette histoire.
Le gaz vers la fin des tarifs réglementés qui sont contraires au droit européen sur la concurrence, selon le Conseil d'État. Il n'y aura pas de changement dans l'immédiat, mais un bouleversement certainement à venir sur le marché. Les consommateurs pourront faire jouer la concurrence.
8h07, le journal Bernadette Chamonnaz. Bernadette, de la pub dans le 20h de TF1, eh bien c'est pour bientôt.
Oui, dès le 1er janvier prochain 2018, le CSA, le gendarme de l'audiovisuel, a donné son feu vert à TF1. Alors l'intérêt financier est évident pour la chaîne. Un spot à 20h, c'est dans les 80 000 euros en moyenne. Reste à savoir si le téléspectateur est prêt à voir surgir une pub entre deux lancements des présentateurs. Pour la conseillère du CSA, Nathalie Sonac, au micro d'Edouard Marguier, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a de toute façon une limite de 12 minutes de publicité maximum par heure.
TF1 aujourd'hui n'a absolument pas intérêt à couper son JT une fois, deux fois, trois fois à l'envi. Le téléspectateur est plutôt hostile à la publicité. Donc un téléspectateur qui voit son programme trop souvent coupé, eh bien va zapper et il va se retrouver par exemple sur le journal, je pense à celui de France 2, qui est le journal concurrent de TF1 et qui lui n'est jamais coupé par la publicité puisque France Télévisions n'a pas le droit. Les coupures s'avèrent importantes si les annonceurs sont enclins à acheter des espaces publicitaires. Mais l'annonceur n'a pas forcément envie d'abîmer sa marque et n'est pas forcément enclin à acheter un espace publicitaire entre deux informations qui sont aussi dures que celles qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans le JT. Donc, il ne faut pas rentrer dans des délires possibles, TF1 va couper tout le temps. Bien sûr que non.
Et le CSA estime que TF1 gagnera environ 50 millions d'euros en plus chaque année, soit 2% du marché publicitaire. C'est un service rendu à des milliers de patients, des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont besoin de soins dentaires notamment. Une entreprise d'Île-de-France envoie ainsi des dentistes en maison de retraite, à domicile, 8000 personnes soignées en 4 ans. Mais aujourd'hui, la faillite menace en cause, selon la direction de l'entreprise, les pression de l'Ordre national des dentistes sur son personnel. Jules Brelaz, vous avez rencontré un praticien qui se dit menacé.
Bonjour madame. Dans cette maison de retraite de Paris, les résidents qui ont mal aux dents peuvent compter sur lui.
C'est le dentiste, madame.
Un docteur qui travaille avec la société Incisive. Dans sa valise, tout le matériel dentaire miniaturisé.
Ouvrez un tout petit peu la bouche.
C'est Jean-Pierre, le mari de la patiente, qui a appelé le dentiste.
Ma femme, vous la voyez dans un fauteuil roulant pour l'emmener dans un cabinet dentaire en ville. C'est pas évident.
Nous sommes très demandés et on se rend compte de la santé bucco-dentaire de nos aînés en maison de retraite. Et c'est juste une catastrophe.
La demande est énorme d'après ce dentiste qui refuse de dire son nom à notre micro.
Je garde l'anonymat parce que je prends un risque d'être radié. L'ordre nous met des bâtons dans les roues.
L'Ordre national des chirurgiens dentistes aurait-il une dent contre la PME du docteur Agnès Gepner, la médecin anesthésiste fondatrice d'Incisive?
Nous nous apprêtons à déposer une demande de redressement judiciaire. Parce que nous avons trois de nos chirurgiens dentistes sommés par l'ordre d'interrompre leur activité avec nous.
Faux, répond Gilbert Bouteille, président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes.
On n'a jamais fait des menaces sur quelques confrères que ce soit.
En réalité, le problème, c'est que les dentistes n'ont pas le droit d'exercer en dehors de leur cabinet, à moins d'obtenir une dérogation au cas par cas auprès de l'ordre, ce qui est impossible pour la société Incisive, car il y a trop de demandes selon sa fondatrice, qui en appelle aujourd'hui à la ministre de la Santé.
Jules Brelaz, à l'étranger, Chypre, il y a 43 ans, jour pour jour, le 20 juillet 1974, l'armée turque débarque au nord de l'île pour marquer son territoire face au régime des colonels grecs. Mais le retour de la démocratie en Grèce n'a rien changé. La ligne de démarcation est toujours là, coupant sans état d'âme le moindre village. Mais l'homme, parfois, prend le pas sur la géopolitique, comme dans ce village où vous êtes rendu, Angélique Kourounis, qui fait de la résistance pacifique.
À Pila, le café chypriote grec fait face au café chypriote turc. Entre les deux, un poste d'observation de l'ONU. Pourtant, jamais ce village n'a connu d'affrontement intercommunautaire. Pour Maro, la postière, il n'y a qu'une seule raison.
Il n'y a pas chez nous de séparation en quartier. On va trouver là une maison grecque, à côté une turque. Plus loin de grecs, peut-être à nouveau deux turcs. Il n'y a pas de secteur séparé. On est tous mixtes. On est mélangé.
Le maire chypriote turc, un verre Ermetal, donne lui une autre explication.
Durant la première partie de l'intervention militaire turque sur l'île, on a eu très peur d'une réaction des militaires grecs. Et on a tous fui le village pour se réfugier dans la base britannique d'à côté. L'autre moitié du village, contrôlée par des chypriotes grecs, est restée calme. On avait tous confié nos clés de maison à nos voisins chypriotes grecs. Ils les ont gardées et en ont pris soin.
Depuis, les deux maires du village, chypriotes grecs et turcs, ont décidé de chiffrer les rues pour ne pas leur donner des noms trop marqués. Du coup, depuis des décennies ici, les cloches sonnent en même temps que l'appel à la prière du muezzin et personne ne s'en étonne. Puis là, Angélique Kourounis pour France Inter.
Aux États-Unis, toujours l'affaire de la possible ingérence russe dans la présidentielle américaine. Le Sénat américain veut en savoir plus dès lundi. Il convoque le gendre de Donald Trump. Mercredi, il entendra son fils et son directeur de campagne. La commission judiciaire veut les faire témoigner sous serment sur cette fameuse rencontre avec une avocate russe censée leur apporter des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Du haut de ces 2360 mètres, un juge de paix sur le Tour de France, aujourd'hui l'Isoard, va-t-il départager les premiers qui se tiennent en moins d'une minute? Romain Bardet notamment, troisième, si près du maillot jaune, si loin aussi, 27 secondes de retard. C'est peut-être le moment d'attaquer, en tous les cas la dernière occasion. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, au micro de Fanny Lechevestrier.
Ça va être un moment décisif assurément dans un lieu de légende du Tour de France, donc c'est ça qui est bien. J'avais adoré l'arrivée au Galibier en 2011, c'était 100 ans après le premier franchissement du col, une arrivée pour la première fois et on avait eu une étape magnifique. Donc bah, je rêve de ça évidemment pour l'étape de l'Isoard, c'est-à-dire qu'on a une bagarre splendide. C'est encore très resserré au classement, Aru a perdu un peu de temps, Froome a grappillé quelques bonifications, mais c'est très très serré. L'Isoard c'est une arrivée à 2360 mètres, c'est une arrivée dans un lieu de légende du Tour de France, dans un décor lunaire, la fameuse casse déserte, là où Coppi, Bartali, Bobet, Merckx, Bernard Thévenet se sont illustrés. Donc ça va encore plus transcender, à mon sens, les champions. Donc si l'Isoard donne une vraie clé pour le vainqueur du Tour, ça m'ira très bien.
Voilà, Christian Prudhomme, donc le directeur du Tour avant l'Isoar. C'est l'un des gros succès du Festival Off d'Avignon. Logique imperturbable du fou. Zabou Breitman reprend dans ce titre de sa pièce une phrase du roman de Lydie Salver, La Compagnie des Spectres, pour explorer le monde des hôpitaux psychiatriques. C'est enlevé, c'est drôle, il y a du talent, c'est votre coup de cœur, Stéphane Capron.
Zabou Breitman réussit le tour de force de parler avec humour d'un sujet qui fait peur, la folie. Le spectacle combine tous les arts. Les quatre comédiens sont brillants dans le jeu, légers dans les chorégraphies, aériens dans les acrobaties. Zabou Breitman s'est beaucoup documenté pour écrire ce spectacle.
On est beaucoup dans le théâtre de l'absurde, c'est-à-dire ces espèces de la folie douce et le possible. Après, il y a des folies plus sévères. J'ai eu un ou deux amis internés et j'ai regardé énormément de documentaires. Bah, depuis Depardon, quand on avait fait Des gens avec Laurent Lafitte, j'ai énormément aimé ce travail-là, mais ça faisait des années que ça mûrissait doucement. En fait, là, j'ai fait un mélange entre des souvenirs, des envies, des écritures, du classique. Et des souvenirs, c'est-à-dire Lewis Carroll, puis j'ai lu Erasme, Éloge de la folie, et puis l'absurde, oui, le surréalisme, la joyeuse dinguerie, on va dire.
J'ai étudié également la médecine, la psychiatrie, mais peu.
J'ai pas besoin de traitement, moi.
Imaginez-vous à ma place.
La logique imperturbable du fou est une bulle inventive où tout est réglé au millimètre. Et sur le fond, Zabou Breitman raconte avec délicatesse et tendresse la vie des malades et du personnel soignant. Avignon, Stéphane Capron, France Inter.
Une bulle de poésie, logique imperturbable du fou. Jusqu'au 29 juillet, c'est au théâtre des Halles à Avignon.